Alors vous le savez peut-être, demain, c'est sur France Inter une journée et même une, surtout une soirée spéciale Bob Marley. Et puis ce soir, ben, j'ai pensé que ce serait peut-être une bonne idée de préparer le terrain en vous faisant entendre tout ce qui s'est passé avant que le reggae arrive. Il y a des voix extraordinaires, enfin voilà, vous allez sans doute beaucoup apprécier. Wonderful World, Beautiful People, la chanson par laquelle tout a commencé. Quoi ? Eh bien, l'engouement d'un jeune public occidental pour le reggae, un rythme originaire de Jamaïque, une petite île de la mer des Caraïbes que personne, ou presque, hormis les citoyens de l'Empire britannique qui avaient dû l'apprendre à l'école, n'aurait alors su situer avec précision sur une carte. C'est Jimmy Cliff qui a écrit et interprété cette chanson en 1969, alors qu'il avait tout juste 21 ans. Personne alors n'avait entendu parler de Bob Marley, âgé de 3 ans de plus que Cliff, et en ce temps-là toujours en quête de gloire internationale. Jimmy Cliff a fourni à la marque anglaise Trojan son tout premier tube. Trojan, alors je vous en ai parlé hier, est la première compagnie à avoir diffusé depuis l'Angleterre des disques de reggae jamaïcain. Des productions qui ont d'abord essentiellement touché l'importante communauté des Jamaïcains qui s'étaient établis en Angleterre pour y trouver du travail avant d'essaimer dans le reste de l'Europe et puis du monde. Trojan célèbre son 50e anniversaire en publiant un coffret de 4 vinyles et 2 CD agrémentés d'un livret très documenté. Alors j'ai puisé dedans, bien sûr, parce que c'est une excellente sélection, mais pas seulement. De fait, il existe une myriade de productions dans laquelle on peut se perdre, parce que le reggae jamaïcain est, dans les limites de sa simplicité, d'une variété et d'une fraîcheur surprenante, ce qui dément le vieux cliché bien enraciné selon lequel, entre guillemets, le reggae, c'est toujours pareil. Alors deux mots quand même sur Jimmy Cliff, l'homme par lequel tout est arrivé et qu'on oublie trop souvent de célébrer. Ce qu'on omet aussi de souligner, c'est que c'est Jimmy Cliff et non son aîné Bob Marley qui a suscité le premier l'engouement international pour le reggae. Son premier album, qui contient le splendide Many Rivers to Cross, repris par Joe Cocker et pas mal d'autres, a été diffusé aux États-Unis comme en Grande-Bretagne et il a passionné au moins un musicien de folk et de rock américain de premier plan. Et oui, parce que dès qu'il a entendu ça, le New-Yorkais Paul Simon, la moitié de Simon & Garfunkel, s'est envolé pour Kingston, la capitale de la Jamaïque. Il tenait à enregistrer dans le studio même où Cliff avait enregistré, et alors accompagné par les musiciens de ce dernier, Paul Simon a gravé en 71 le tout premier reggae américain Mother and Child Reunion. Cela dit, c'est par une autre voie assez inattendue que Jimmy Cliff a joué en fait un rôle encore plus déterminant dans la diffusion du reggae et puis l'adoption de son rythme et de ses sonorités par un public international. En 72 est sorti un film qui s'appelait The Harder They Come, en français on l'avait traduit par tout de suite. C'était un film qui avait été tourné en Jamaïque, ce n'était pas fréquent, et qui racontait l'histoire d'un apprenti chanteur, un prénommé Ivan, joué justement par Jimmy Cliff. Alors Ivan avait des embrouilles avec un producteur véreux, il devait vendre de la ganja pour s'en sortir, alors il se retrouvait, c'était logique, avec la police à ses trousses, il tuait un motard au cours d'une fusillade, et puis il devenait une sorte de hors-la-loi qui fascinait la jeunesse de l'île. Alors quand on y pense, d'ailleurs vous avez là le modèle du gangsta rap. En tout cas, le succès de ce film, The Harder They Come, et puis surtout de sa BO, a mis le feu aux poudres. Et c'est alors que Chris Blackwell, un Jamaïcain blanc qui avait débuté dans le métier en diffusant depuis Londres dans les années 60 la musique de l'île, s'est dit alors à ce moment-là que ça y est, enfin, le moment était venu, le public du monde entier était enfin prêt pour le reggae. Et logiquement, il a alors proposé à Jimmy Cliff un contrat international aux immenses ambitions. Blackwell était en effet sûr de faire de Jimmy Cliff la première superstar mondiale du reggae grâce à sa compagnie discographique Island au prestige international. Seulement, là, surprise, il se fait totalement doucher. Jimmy Cliff refuse, il estime qu'il n'a pas besoin de Blackwell pour devenir célèbre, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait faux. Cela dit, il s'est peut-être repenti après parce que Blackwell, furieux, s'est rabattu sur un second choix, les Wailers de Bob Marley, un chanteur qui à 27 ans n'avait encore pas eu un seul tube international. Bon, finalement, parfois le proverbe se vérifie, à quelque chose, malheur est bon.
Very Good Trip, Mishka Asayas.
De la vague du ska qui, entre 1979 et 1980, semblait devoir tout emporter sur son passage. Long Shot Kick the Bucket, c'était en 69, un hommage à ce que je comprends, à un cheval de course qui s'appelait Long Shot et qui avait claqué pendant sa 203e course. C'est vrai, on en apprend des trucs sur Wikipédia. C'était un trio vocal jamaïcain, les Pioneers, qui chantaient ça donc en 69. Ils avaient eu un tube en Grande-Bretagne grâce à cette chanson et la tournée qu'ils avaient faite dans la foulée avait attiré tout un public de skinheads. Vous savez, ces prolétaires de banlieue ouvrière anglaise qui avait adopté le reggae comme signe de ralliement. C'est d'ailleurs ce qui a poussé les Pioneers, qui venaient donc de Jamaïque, à venir s'établir en Angleterre, où ils ont continué à enregistrer, notamment avec Eddie Grant, un grand nom du reggae des années 70 et 80. Alors ces skinheads, on les retrouverait 10 ans après dans le public des Specials, de Madness, de The Selector et The Beat, les 4 groupes que la vague du ska allait élever à son sommet. Des groupes multiraciaux, comme on disait alors, à l'exception notable de Madness, qui d'ailleurs ne venait pas des Midlands comme les 3 autres, les Midlands, le centre de l'Angleterre industrielle, mais de Londres. Et d'ailleurs, parmi les 3 chanteurs des Specials, il y avait de fait 2 enfants de l'immigration jamaïcaine. Ce qui n'empêchait pas une minorité de jeunes gens ouvertement racistes de se masser au concert des Specials et de chercher la bagarre avec qui ne leur ressemblait pas. Et souvent, c'était un chaos indescriptible. Un mot sur le titre qu'on a entendu juste avant, un instrumental intitulé Return of Django, qui était signé par les Upsetters et qui commençait par le clairon de la cavalerie. Le fameux western spaghetti Django, tourné en 66 avec l'acteur italien Franco Nero dans le rôle titre, celui d'une espèce de mercenaire cynique pendant la guerre de sécession, avait connu un grand succès en Jamaïque. Et le thème musical, dû au compositeur italien Luis Bacalov, s'inscrivait dans un style surf rock très orchestré qu'on a toujours associé au western spaghetti. Alors il est difficile de trouver la trace de ce thème dans l'instrumental intitulé Return of Django, signé donc en 69 par les Upsetters. Alors qui étaient ces Upsetters ? Eh bien c'est le groupe qui avait assemblé Celui qui est sans doute le plus prestigieux réalisateur artistique de l'île, de la Jamaïque, Lee Perry, lui-même surnommé d'ailleurs The Upsetter, le trouble-fête si vous voulez. Surnommé également Scratch, ce Lee Perry a été un pionnier de la technique du dub qu'avait inventé en fait et perfectionné un précurseur, King Tubby. Et puis aussi, Perry avait apporté au dub le bruitage, les effets sonores et même une forme de sampling, d'échantillonnage sonore avant la lettre, alors totalement artisanal. On l'avait d'ailleurs surnommé le Phil Spector jamaïcain et il avait d'ailleurs la même réputation de cinglerie totale. En tout cas, son groupe, les Upsetters, réunissait certains des musiciens les plus brillants de l'île, notamment les frères Barrett, le bassiste Family Man et le batteur Carly, qui allait devenir une section rythmique modèle imitée de tous au sein des Wailers de Bob Marley. Allez, il est temps d'écouter une voix féminine ce soir sur France Inter, la reine du monde, Queen of the World, c'est signé Lloyd and Claudette.
Amazing, swinging, this is the latest dance that's going around. Listen to what you're putting down, it's the world.
Take my heart and the palm of your hand.
So Good, c'était la voix pleine de fraîcheur et de jeunesse de la chanteuse soul jamaïcaine Susan Cadogan en 1973. Cette reprise d'un succès de l'américaine Millie Jackson a été réalisée par Lee Perry, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Alors c'est étrange, mais il y a eu un rapprochement musical historique à Londres dans les années 76-77 dont on parle plus ou plus beaucoup, ou bien qu'on minimise, c'est celui du punk rock et du reggae. Alors si vous connaissez un peu le contexte du punk rock londonien, vous savez peut-être que Paul Simonon, le bassiste de The Clash, avait grandi à Brixton, où résidait une importante communauté jamaïcaine, et puis Joe Strummer était aussi un grand amateur et connaisseur de reggae. C'est d'ailleurs eux deux qui avaient initié Mick Jones, qui était à l'origine plutôt branché par les Stones. Et puis, il y a eu aussi, dans l'entourage de The Clash, un personnage clé du nom de Don Letts. Fils d'immigrés jamaïcains, coiffé d'un grand béret, il avait d'immenses dreadlocks, enfin, il avait une allure très impressionnante, Don Letts tenait une boutique de fripes branchée sur King's Road, à Londres, hein, pas loin de celle de Malcolm McLaren et Vivienne Westwood. Don Letts y passait du reggae et du dub du matin au soir et ça marchait très bien auprès de sa clientèle de marginaux punk qui aimait bien ça. Alors on a fini par demander à Don Letts de venir au Roxy, c'est une boîte que fréquentait cette petite avant-garde de punk londonien pour y passer des disques. Et c'est là que s'est réalisé le premier mélange punk-reggae qui était à l'origine d'une véritable révolution musicale. Puisque peu de temps après, Bob Marley et les Wailers allaient enregistrer un titre qui s'appelle Punky Reggae Party, bon, qui est pas vraiment punk, enfin bon, l'intention était dans le titre. Et puis The Clash allait demander à Lee Perry, déjà une légende vivante, hein, de réaliser pour eux un titre sorti en 45 tours à l'été 77, Complete Control. Et puis le trio The Police, qui réunissait de façon improbable un guitariste vétéran du rhythm and blues anglais, un bassiste et chanteur de jazz du nord de l'Angleterre et un excellent batteur américain, allait bientôt s'engouffrer avec le succès qu'on sait dans cette mode. Même si, aux yeux des punks purs et durs, c'était qu'un trio de vieux opportunistes qui avait viré le seul vrai punk de la bande. Évidemment, je veux parler du guitariste corse Henri Padovani. Bref, Don Letts, chargé de passer des disques au Roxy Club, raconte qu'il avait très peu de disques punk décents à passer. De fait, fin 76, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Il diffusait pour les punks qui étaient là, qui avaient peut-être envie aussi d'arrêter de s'exciter, des disques reggae et dub, Big Youth, les Diamonds, I-Roy, U-Roy, Tapazuki, enfin il y avait le choix. Et il passait aussi des maxis de reggae, dance, longs de 15 minutes, ce qui lui laissait un temps largement suffisant pour se faire un bon pétard et le fumer tranquillement sans avoir à changer le disque. Alors Don Letts, c'est vraiment quelqu'un d'étonnant. En 78, il a assemblé divers petits films Super 8 de concerts punk pour créer un film qui s'appelait The Punk Rock Movie. C'est lui qui a entraîné John Lydon en Jamaïque après la séparation des Pistols, et ce qui a été à la source d'une révolution musicale pour l'ancien chanteur donc du groupe, qui allait créer Public Image Limited. Et puis, il a aussi été le manager du trio punk entièrement féminin, les Slits. Chose étonnante aussi, il a été brièvement le chanteur d'un groupe qui a été vraiment pionnier du mélange dub, reggae, punk, électropop, qui s'appelait Basement 5. Et puis aussi, quand Joe Strummer, en pleine crise de doute, a décidé en 1983 d'éjecter Mick Jones de The Clash, eh bien, c'est vers Don Letts que, justement, Jones s'est tourné pour créer Big Audio Dynamite, un groupe de conception nouvelle en avance sur son temps où effets visuels, funk et music house se mélangeaient. Bref, pour revenir au label de reggae Trojan, Don Letts est une des personnalités qui récemment s'est occupée de créer sa propre compilation de ses titres préférés publiés chez Trojan, ce qu'il avait vu son parcours toute légitimité à faire. C'est-à-dire, il n'est pas le seul à l'avoir fait. Il n'y a pas si longtemps, notamment Johnny Greenwood de Radiohead, un grand fan de reggae des premières années, a aussi dressé sa propre liste de ses titres préférés de chez Trojan. Alors voilà, ce soir, j'ai de la chance puisque France Inter m'offre le privilège de faire ma propre liste. soliste. Allez, voici une pépite de 70, Barb Wire, signée Nora Dean, l'évocation coquine par une fille d'un garçon qui a du fil barbelé dans son slip.
Listen to me, baby, stay.
Woman of the Ghetto, la très belle version reggae d'une chanson créée en 1969 par la chanteuse de jazz new-yorkaise Marlena Shaw. Puis quelques années plus tard, elle était donc reprise par la jamaïcaine Phyllis Dillon dans un style plus sombre, un peu crépusculaire. C'est étonnant le nombre de voix magnifiques qu'on a du mal d'ailleurs à caractériser par un autre mot que soul à être sorties de Jamaïque. Comme celle-ci, haute et comme aérienne de Horace Andy, un chanteur qui a débuté très jeune, encore adolescent au milieu des années 60. Un de ses modèles, ça s'entend, devait être Sam Cooke, le premier chanteur noir américain qu'on ait caractérisé comme soul, parce qu'il avait connu la notoriété en chantant dans une chorale de gospel, la parole de Dieu, d'une voix haute et angélique qu'il avait ensuite mise au service de chansons séculières, ce qui n'avait pas été du goût de sa famille très croyante qui avait jugé ce là impie. En Jamaïque aussi, nombre de ces chanteurs ont commencé en chantant le gospel à la chorale de leur église locale. Horace Andy s'appelait de son nom d'origine Horace Hines, comme un cousin à lui, Justin, qui avait déjà une petite notoriété dans l'île. C'est ce qui a poussé son producteur artistique, le légendaire Coxon Dodd, qui a d'ailleurs découvert et lancé la plupart des grands chanteurs jamaïcains, à le rebaptiser Horace Andy pour le distinguer de son cousin. Son succès de 72, Skylarking, révèle une voix de tête très particulière, presque féminine, au vibrato parfois comme tragique. Cette chanson de 73, qui s'appelle Riding for a Fall, que je vous propose, révèle peut-être une autre facette, quelque chose d'un peu plus langoureux dans sa voix. D'ailleurs, j'allais oublier de le signaler, il y a un autre public international qui a découvert bien plus tard Horace Andy, c'était lors des concerts de Massive Attack, vous savez ce groupe de Bristol dans le sud-ouest de l'Angleterre qui a contribué à fonder le courant du trip-hop au début des années 90, mais enfin ça c'était bien avant Horace Andy en 73 dans Riding for a Fall. Sound.
Very Good Trip sur France Inter.
D'aventure, vous vous trouviez parmi la petite troupe de punk marginaux qui dansait en 76 ou début 77 au Roxy à Londres, et bien vous aviez de fortes chances d'entendre ce titre de 1972, President Mash Up the Resident, attribué au DJ jamaïcain Shorty the President, de son vrai nom Derek Hudson. Le DJ du lieu, d'origine jamaïcaine, Don Letts, je vous ai dit ça, passait du reggae et du dub pour que les punks puissent de temps en temps danser et respirer. Don Letts raconte que les filles des Slits, Harry Up et Viva Albertine, se mettaient alors à improviser des chorégraphies et tout le monde les suivait. Cette influence du reggae et du dub se retrouverait bien sûr dans la musique des Slits, dont j'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler et puis surtout de diffuser, et qui fut vraiment en avance sur son temps. Alors juste avant, c'était Don't Run for a Hiding Place, un titre au rythme sautillant, signé par un groupe jamaïcain qui s'appelait les Silvertones. Alors son style l'apparente au rocksteady, qui marqua dans la seconde moitié des années 60 une sorte de transition entre le ska et le reggae. Toujours choisi par Don Letts dans les archives du label Trojan, voici un titre signé par celui qui fut un des DJ les plus importants en Jamaïque, Roy Reed, dit I-Roy. Buck and the Preacher, voilà le titre de ce morceau. C'est le titre d'un film qui a été réalisé et interprété par l'acteur noir américain Sidney Poitier en 72. En français, ça s'appelait Buck et son complice. Alors le complice en question est un drôle de prêcheur, pas très net, incarné par le chanteur Harry Belafonte. Il s'agit d'un western qui se déroulait peu de temps après la guerre de sécession, sur fond de spoliation des terres indiennes et d'esclavagisme, et dont les deux comédiens principaux étaient noirs, ce qui est assez rare pour qu'on le souligne. Le titre de I Roy commence par une conversation du DJ avec un camarade à propos de ce film, mais hélas, leur accent assez impénétrable rend le contenu de la conversation incompréhensible à mes oreilles, en tout cas.
Right now, brother Ira, what the man are you up to this Ira?
Why you want to see I man? I think you go take in a movie, you know, Jason.
Wait, you mean the same one the book and the preacher up on the arm of you?
Yeah, I man you said a movie there. Sure, I used to movie the man, me I tell it bad.
But yeah, man, it will rain with the I man forward upon the Brooklyn and the New York there. I'm gonna take it in, me I tell you. Sure.
What? I man gone here, sir.
Alright, I'm gonna go take it in.
Alright.
Now whether you drive a cab wheel or a GXL or a Tiller, the scene is way out easy with school and sweaters. I will tell it to you.
Well, brothers and sisters,
Killing About International movie on the scene called The Buck and the Preacher Man. Kind of man you got to understand, as I would say. So you gotta see the show, you gotta stay in the back row, as I would tell it's all called The Buck and the Preacher. Baby, really gotta make the scene if you gotta sit in the bleacher like I tell it to you. Until you bunk on the preacher. See you bunk on the preacher. I'm Brother Buck with him yucky. I'm the preacher with him bama. Tilling dang dang. Ting-a-ling, ting-a-ling. You hear the children sing. Ting-a-ling, ting-a-ling. So baby, got to take in the movie man, that's for sure. Gotta pay your waiting people coming through the door. That will give a little bit more. A movie called A Buck and the Preacher Man. See a buck, a bucky. A buck was very lucky, you know. A henny luck, a good luck. Tell him about the brother called Buck and the Preacher Man. See a buck and the preacher. See the children, a buck and the preacher. And then a buckle with him monkey. And then a buckle with him gong. And ding dong ding dong. And ding dong ding dong. And ting a ling ting a ling. It's kind of movie that's how we the wing and that will tell you.
Find a Dub, une version dub, c'est-à-dire instrumentale, d'un titre des Aggravators. C'est un groupe qui travaillait à Kingston pour le réalisateur artistique Bonnie Lee, qui orchestrait de nombreux succès comme le Wet Dream de Max Romeo, qui fut un tube au Royaume-Uni en 68. D'ailleurs, je m'en souviens, j'étais enfant, mais j'écoutais la radio. Ça avait été censuré à la BBC à cause de ce titre, Wet Dream, traduisait pollution nocturne. Alors, je vous parlais de dub, cette technique qui a précédé et prophétisé en Jamaïque celle du remix, qui a commencé à se répandre dans le disco funk, puis à peu près dans dans tous les styles de musique populaire. Par la suite, eh bien, ses pionniers furent King Tubby et Lee Perry. Je vous en ai parlé, mais il y en a eu quelques autres. Alors, impossible d'entrer dans les détails techniques. D'ailleurs, pour être honnête, je ne les maîtrise pas totalement. Mais enfin, il paraît que c'est à la suite d'un accident que le dub est né. Il y avait un opérateur qui travaillait pour un certain Ruddy, propriétaire d'un important sound system dans le quartier de Spanish Town à Kingston, qui aurait fait une erreur en gravant une sorte de pré-disque en lac avant la gravure en vinyle. Et il aurait oublié la piste vocale d'un titre des Paragons, ne laissant que la version instrumentale. Et Lee Ruddy aurait alors décidé que ça lui plaisait comme ça, ce qui a ensuite entraîné des ingénieurs du son inventif à ajouter écho, réverb, enfin toute une gamme d'effets sonores, ce qui a ouvert la voie à des ébauches, voilà, d'échantillonnages sonores, sampling, etc. chez des visionnaires comme Lee Perry. Alors je vous parlais des Paragons, eh bien on va les retrouver pour se quitter avec ce titre que vous connaissez sûrement sous une autre version, The Tide Is High. C'est Blondie qui a popularisé cette chanson très tropicale en 78, un de ses plus gros tubes dans un style antillais, enfin façon New Wave. Enfin là, c'est la version d'origine des Paragons avec John Holt. Voilà, on se quitte pour ce soir avec les Paragons, The Tide Is High. Alors, demain, c'est spécial parce que nous recevrons Omar Waman qui va débarquer de l'avion de Kingston, en Jamaïque. Et puis, je laisserai les rênes à Ali Nafanoko. Et ben, vous la connaissez bien. Elle est là tous les matins sur France Inter pour vous parler d'un voilà, chanteur, une chanteuse, un groupe. Et ce sera évidemment une soirée exclusivement consacrée à Bob Marley. Il y aura des surprises. Tout de suite après les informations, eh bien, vous retrouverez Laurent Goumard et son côté club. Voilà, à demain.